Chapitre 25. Journal du Dr. Seward. 11 octobre. Au soir. Jonathan Harker me prie d'enregistrer ce qui suit. Lui-même, me dit-il, ne suffit pas à la tâche et il souhaite que tout soit exactement consigné. Aucun de nous, je pense, ne fut surpris quand nous fûmes invités auprès de Mrs. Harker un peu avant le crépuscule. Nous avons été récemment amenés à comprendre que le lever et le coucher du soleil sont pour elle des moments d'une étrange libération où son moi véritable se manifeste sans que nulle force la domine, soit pour l'empêcher d'agir, soit au contraire pour l'y obliger. Cet état fait son apparition environ une demi-heure ou davantage avant le lever ou le coucher du soleil et dure jusqu'à ce que le soleil soit haut ou que des nuages s'embrasent sous les rayons qui dépassent encore l'horizon. C'est au début une sorte d'influence négative, comme si un lien était dénoué, à quoi succède très rapidement une liberté absolue. Mais quand celle-ci est suspendue, le retour en arrière, la rechute, viennent très vite, précédée seulement par un intervalle de silence avertisseur. Lorsque nous nous rencontrâmes ce soir, elle paraissait quelque peu contrainte et donnait tous les signes d'une lutte intérieure. J'attribuais cette tension au violent effort qu'elle exigeait d'elle-même dans le premier moment où elle recouvrait sa liberté. Quelques minutes toutefois lui suffirent pour reprendre un contrôle total sur elle-même, puis, faisant signe à son mari de s'asseoir à son côté sur le sofa où elle était à demi étendue, elle nous pria d'apporter des chaises près d'elle. Prenant dans les siennes la main de Harker, elle commença. « Nous sommes ici réunis, et libres, et peut-être pour la dernière fois. Cher, je sais que vous serez toujours avec moi jusqu'à la fin. » Ces mots s'adressaient à son mari, dont la main, nous le voyons, serrait étroitement la sienne. « Demain matin, reprit-elle, nous partons accomplir notre entreprise, et Dieu seul sait ce qu'elle nous réserve. Vous avez la bonté de me prendre avec vous. Tout ce que des hommes courageux peuvent faire pour une pauvre faible femme dont l'âme est peut-être perdue. Non, non, pas encore, mais en grand danger, en tout cas. Vous le ferez, je le sais. Mais souvenez-vous que je ne suis pas semblable à vous. Il y a du poison dans mon sang, dans mon âme, et j'en puis périr, à moins que quelque secours ne me vienne de vous. Ah, mes amis, vous savez aussi bien que moi que mon âme est en péril. Je sais, il est vrai, qu'une voie reste ouverte devant moi, mais vous ne devez pas, et je ne dois pas la prendre. » Elle nous jeta un regard interrogateur, le premier et le dernier étant pour son mari. « Quel chemin ?» demanda Van Helsing d'une voix rauque. « Quel est ce chemin que vous ne devez pas, que vous ne pouvez pas prendre ?»«
Mourir sur le champ de ma propre main ou de celle d'un autre avant qu'un mal plus grand soit consommé. Je sais, et vous aussi, que si j'étais morte, vous pourriez... Vous voudriez libérer mon esprit immortel comme vous l'avez fait pour ma pauvre Lucie. S'il n'y avait pour m'arrêter que la mort ou la peur de la mort, je n'hésiterais pas devant elle, à présent, parmi des amis à qui je suis cher. Mais la mort n'est pas tout. Je ne puis croire qu'en mourant maintenant avec un si grand espoir devant nous et une tâche meilleure à accomplir, je fasse la volonté de Dieu. C'est pourquoi je renonce pour ma part à la certitude du repos éternel. Et je m'avance vers cette nuit qui recèle peut-être ce qu'il y a de plus noir en ce monde et dans le monde inférieur. Nous nous taisions, comprenant d'instinct que ce n'était là qu'un prélude. Les autres visages étaient graves, tendus. Celui de Harker devenait couleur de cendre. Peut-être devinait-il mieux que nous ce qui allait suivre. Elle poursuivit. Tel est mon apport au Hochepot.
Je remarquai l'étrange terme dont elle se servit à cet endroit et le plus sérieusement du monde. « Quel est l'apport de chacun de vous ?»«
Vos vies, je le sais, » dit-elle vivement. « Tâche aisée pour des hommes braves. Vos vies viennent de Dieu et vous les lui restituez. Mais que me donnerez-vous à moi ?»
Elle eut de nouveau le même regard interrogateur, mais en évitant cette fois les yeux de son mari. Quincy semblait la comprendre car il acquiesça d'un mouvement de tête et le visage de Mrs. Harker s'éclaira.
« Eh bien, je vais vous dire simplement ce que je veux de vous car rien dans notre accord ne doit rester dans l'ombre. Vous devez me promettre, chacun et tous, et même vous, mon mari bien-aimé, si l'heure vient, de me tuer.
Quelle heure ? Quincy avait parlé, mais d'une voix basse, étranglée.
Celle où vous serez convaincu que le changement en moi est tel que la mort pour moi est devenue préférable à la vie, lorsque je serai de la sorte morte selon la chair, sans attendre une seconde, percez-moi d'un pieu et coupez-moi la tête ou faites tout ce qu'il faudra pour que j'accède au repos.
Quincy fut le premier à se lever après un silence. Il mit un genou en terre devant elle et, lui prenant la main, dit solennellement
« Je ne suis qu'une brute, et peut-être n'ai-je pas vécu pour être digne d'une telle distinction. Mais je vous jure, par tout ce que j'ai de plus sacré, que si cette heure vient jamais, je ne broncherai pas devant le devoir que vous nous imposez. Et je vous promets également que si j'ai le moindre doute, je n'hésiterai pas. Je considérerai le moment comme venu. »
Mon véritable ami, fut tout ce qu'elle put dire au milieu de ses larmes, et s'inclinant vers lui, elle baisa sa main.
« Je prends le même engagement, Madame Mina, » dit Van Helsing.
« Moi aussi, » dit Lord Godalming.
Chacun d'eux, à son tour, s'agenouillant pour prêter serment, et je fis de même. Son mari enfin se tourna vers elle, le regard perdu et le visage couvert d'une pâleur verdâtre qui atténuait la blancheur neigeuse de ses cheveux. Il demanda « Et moi aussi, dois-je faire cette promesse, ô ma femme ?»«
Vous aussi, mon chéri, » lui répondit-elle avec un immense élan de pitié dans la voix et les yeux. « Vous ne devez pas reculer. Vous êtes ce que j'ai de plus proche et de plus cher. Pour moi, vous êtes le monde entier. Nos âmes sont fondues l'une dans l'autre pour toute la vie et toute l'éternité. Songez, mon chéri, qu'il y a eu une époque où des hommes braves ont tué leur épouse et les femmes de leur famille pour leur épargner de tomber entre les mains de l'ennemi. Leurs mains n'ont pas défailli, car celles qu'ils aimaient les suppliaient de les tuer. C'est le devoir viril envers les aimés dans les jours d'épreuves atroces. Ah, mon très cher, si je dois mourir de la main de quelqu'un, que ce soit de la main de celui qui m'aime le plus.
Docteur Van Helsing, je n'ai pas oublié que lorsqu'il s'est agi de la pauvre Lucie, vous avez témoigné une véritable pitié à celui qui l'aimait.
Elle rougit fugitivement, s'arrêta et modifia sa phrase.
À celui qui avait éminemment le droit de lui conférer la paix, s'il revient une heure comme celle-là, je compte sur vous pour que mon mari se souvienne avec douceur sa vie durant que c'est sa main aimante qui me libéra du joug d'horreur que je portais.
« Je jure une fois encore, » dit la voix vibrante du professeur.
Mrs. Harker sourit.
Oui, sourit, vraiment, et retombant en arrière avec un soupir de soulagement, elle reprit.
« Et maintenant, pour vous mettre en garde, un dernier mot qu'il ne faudra jamais oublier. Cette heure, si elle doit un jour venir, peut surgir rapide et inattendue. Dans ce cas, ne perdez pas de temps à guetter une occasion propice, car à ce moment, je puis être, oui, si l'heure vient, je dois être allié contre vous à votre ennemi. Une prière encore, dit-elle avec une grande solennité. Une prière moins vitale, moins urgente que l'autre. Mais c'est une faveur que je vous demande de m'accorder si vous le voulez bien.
Nous marquâmes notre accord sans qu'un seul de nous eût dit un mot. Ce n'était pas nécessaire.
Je vous demande de lire maintenant l'Office des morts.
Un sourd gémissement de son mari l'interrompit. Elle prit sa main et la posa sur son cœur, tout en continuant.
« Vous le lirez un jour sur mon corps. Quelle que soit l'issue de cette terrible aventure, ce sera une douce pensée pour nous tous, pour plusieurs du moins. » « Mon chéri, c'est vous, j'espère, qui le lirez. Ainsi, c'est votre voix qui le gravera dans ma mémoire pour l'éternité, quoi qu'il m'arrive. »
« Mais, ma chérie, plaida-t-il. La mort est bien loin de vous.
Non pas,
dit-elle, levant la main en signe d'avertissement.
Je suis en ce moment plus enseveli dans la mort que si un sépulcre terrestre pesait sur moi.
Ma femme. Dois-je vraiment lire, demanda-t-il avant de commencer.
Cela me fortifierait, mon époux, dit-elle sans plus.
Et il se mit à lire lorsqu'elle lui eut tendu le livre.
Comment pourrais-je ? Qui pourrait décrire cette scène étrange avec sa solennité, sa sombre tristesse, son horreur, et malgré tout, sa douceur ? Même un sceptique qui ne voit qu'une parodie d'amère vérité dans tout ce qui est émotion sacrée aurait senti son cœur se fondre devant ce petit groupe d'amis tendres et dévoués à genoux autour de cette femme accablée et souffrante, et en entendant la voix sensible, passionnée, de son mari, tandis qu'en accent brisé par l'émotion et souvent entrecoupé, il lisait le simple et bel office des morts. Je n'en puis plus. Les mots et la voix me manquent. Son instinct l'avait bien guidé, si incroyable que cela puisse paraître, et nous en fûmes les premiers étonnés. Ce moment nous réconforta puissamment, et le silence qui nous prouva que Mrs. Harker perdait de nouveau après la liberté de son âme ne nous remplit pas du désespoir que nous avions redouté.
Journal de Jonathan Harker, 15 octobre, Varna. Nous avons quitté Charing Cross dans la matinée du 12, atteint Paris la même nuit et pris les places réservées pour nous dans l'Orient Express. Voyageant nuit et jour, nous sommes arrivés ici vers 5 heures. Lord Godalming s'est rendu au consulat, demandé si aucun télégramme n'était arrivé pour nous, tandis que les autres s'installaient à l'hôtel, l'Odessus. Le voyage a pu comporter quelques incidents. J'étais trop pressé d'arriver pour en prendre souci, jusqu'à ce que le tsarine Catherine entre au port. Rien dans le vaste monde n'aura pour moi le moindre intérêt. Grâce à Dieu, Mina est bien et semble être plus forte. Elle reprend des couleurs et dort beaucoup. Pendant le voyage, elle a dormi presque tout le temps, mais au moment qui précède l'aube et le crépuscule, elle est au contraire très éveillée et active. Ce sont les heures où Van Helsing a pris l'habitude de l'hypnotiser. Au début, il a éprouvé certaines difficultés, et il a dû faire bien des passes. Mais à présent, elle semble céder sur le champ comme par habitude, et c'est à peine s'il faut agir sur elle. À ces instants-là, il semble avoir toute autorité sur elle, et ses pensées lui obéissent. Il lui demande invariablement ce qu'elle peut voir et entendre. Elle répond alors « Rien, tout est noir ». Puis, « J'entends les vagues heurter le navire et l'eau qui se brise. On tire des cordes, des voiles. Les mâts grincent et les vergues. Le vent est fort, je l'entends dans les haubans, et la proue fend l'écume. Le tsarine Catherine est évidemment encore en mer, se hâtant vers Varna. Lord Godalming rentre à l'instant avec 4 télégrammes envoyés de jour en jour depuis notre départ et tous nous donnant le même renseignement. Le Lloyd n'a été avisé du passage du tsarine Catherine en quelque lieu que ce soit. Lord Godalming avait pris ses dispositions avant de quitter Londres afin que son agent lui télégraphie de jour en jour et lui dise si le navire avait été signalé quelque part. Nous avons dîné et nous nous sommes couchés tôt. Demain, nous devons voir le vice-consul et prendre nos dispositions, si c'est possible, pour monter à bord dès que le bateau arrivera. Nos chances seraient, dit Van Helsing, que nous puissions le faire entre le lever et le coucher du soleil. Même sous la forme d'une chauve-souris, le comte ne peut traverser une eau courante par ses propres ressources. Il ne pourra donc quitter le navire. Comme il ne peut, sans éveiller les soupçons, ce qu'évidemment il souhaite éviter, prendre la forme humaine, il lui faut rester dans son coffre. Si par conséquent nous pouvons monter à bord après le lever du soleil, il sera à notre merci car nous pourrons ouvrir sa caisse et nous assurer de sa personne, comme on l'a fait pour la pauvre Lucie, avant qu'il ne s'éveille. La pitié qu'il peut attendre de nous ne sera pas grand-chose. Grâce au ciel, la corruption peut tout dans ce pays, et nous avons beaucoup d'argent. Assurons-nous simplement que le bateau ne puisse accoster entre le coucher et le lever du soleil sans que nous en soyons avisés, et nous sommes sauvés. Le Seigneur Portefeuille arrangera les choses, j'imagine.
16 octobre. Mina signale toujours la même chose, des vagues clapotantes, de l'eau qui se brise, de l'obscurité et du vent en poupe. Nous sommes arrivés bien à temps et les nouvelles du tsarine Catherine nous trouveront prêts. Le bateau doit passer les Dardanelles. Nous sommes donc sûrs d'entendre parler de lui.
17 octobre. Tout est fin prêt à présent, je pense, pour saluer le comte à son retour de voyage. En racontant aux affréteurs que la caisse devait contenir des objets volés à un de ses amis, Godalming a obtenu une demi-autorisation de l'ouvrir à ses risques et périls. L'armateur lui a remis un papier prescrivant au capitaine de lui accorder toute facilité pour agir à sa guise sur le bateau et une autorisation analogue pour son agent de Varna. Nous avons vu cet agent favorablement disposé par la courtoisie de Godalming à son égard et nous sommes convaincus qu'il nous apportera toute l'aide qui sera en son pouvoir. Nous avons pris nos mesures pour le cas où nous parviendrions à ouvrir la caisse. Si le comte s'y trouve, Van Helsing et Siward lui couperont la tête tout en lui enfonçant un pieu dans le cœur. Morris, Godalming et moi nous préviendrons toute intervention, même s'il nous faut faire usage des armes dont nous serons pourvus. Le professeur nous assure que le corps du comte, traité de la sorte, tombera aussitôt en poussière. En ce cas, rien ne témoignera contre nous si nous venions à être soupçonnés de meurtre. Même si la chose ne se produisait pas, nous assumerions les conséquences de notre acte et peut-être un jour, ce cahier pourrait-il servir de preuve pour s'interposer entre l'un de nous et l'échafaud. Pour moi, je serais trop heureux de saisir l'occasion si elle se présente. Nous sommes décidés à remuer ciel et terre pour assurer notre succès. Nous nous sommes arrangés avec certains officiels afin d'être avertis par message spécial dès que le tsarine Catherine sera en vue. 24 octobre. Toute une semaine d'attente. Un télégramme chaque jour pour Godalming répétant la même histoire. Aucune nouvelle encore. La réponse de Mina pendant l'hypnose est invariablement clapotis de vagues, coups d'eau, grincement de mâts. Télégramme de Rufus Smith Lloyd, Londres, pour Lord Godalming, au bon soin de Sa Majesté britannique, vice-consul, Varna. 24 octobre. Tsarine Catherine signalée ce matin aux Dardanelles.